Merci beaucoup. Si vous le permettez, avant d'apporter une modeste contribution à la question posée, comment améliorer l'impact des actions de l'équipe France dans le domaine éducatif, dans la coopération internationale, je voudrais rapidement situer les missions du CIEP, Centre international d'études pédagogiques. C'est une institution un peu originale dans le dispositif du ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est une institution qui est chargée d'organiser la coopération internationale en éducation. Également, une deuxième mission qui est d'ailleurs qu'on pourrait intégrer à la première, qui est d'améliorer l'enseignement de la langue française dans le monde. Le premier aspect est assez particulier parce que nous sommes amenés à intervenir sur un marché concurrentiel, puisque vous savez qu'aujourd'hui, les financements pour la coopération en éducation, pour les projets de coopération éducative, passent par des bailleurs bi ou multilatéraux qui financent les pays, souvent directement, et l'ensemble des financements sur chaque projet passe par des appels d'offres, des appels à projets dans le cas de la Commission européenne. Et il faut donc savoir se positionner et surtout regrouper, rassembler l'expertise française et souvent aussi une partie d'experts dans les pays mêmes capable de convaincre et d'emporter ces appels d'offres. Donc on n'est plus dans un système d'aide publique au développement dans le domaine de l'éducation qui est financé directement par l'État français, mais qui passe par une mise en concurrence à l'échelle internationale. Et ça implique d'être extrêmement efficace pour jouer un rôle dans ce domaine et surtout de savoir mobiliser l'expertise concernée. Nous intervenons dans toutes sortes de projets. On peut les regrouper en trois grandes catégories. L'amélioration de l'éducation de base, le développement de systèmes secondaires et professionnels d'enseignement, la qualité de l'enseignement supérieur. Et dans chacune de ces grands domaines, on a des projets qui consistent quelquefois à reconstruire les curricula de formation dans tel pays, accompagner le pays dans la réorganisation de ses curricula et dans les contenus de ses curricula. Vous voyez que ça fait appel à une expertise particulière. Quelquefois, il s'agit de gouvernance des systèmes éducatifs, d'accompagnement du changement de ces systèmes éducatifs. Quelquefois, il s'agit de développer des dispositifs de formation professionnelle ou d'améliorer des dispositifs de formation professionnelle existants. Et donc, à chaque fois, il faut être en situation de rassembler l'expertise pertinente pour intervenir, pour remporter les projets en question. Dans le domaine de la qualité de l'enseignement supérieur également, il y a une demande de plus en plus forte, puisque tous les pays essaient de normaliser la qualité de leur enseignement supérieur et donc de définir des normes qui permettent de se référer. Donc ils se réfèrent en particulier au processus de Bologne en Europe. Voilà un peu pour les aspects de coopération en éducation. Je pourrais vous donner, mais on intervient dans les pays francophones, donc en Afrique subsaharienne. On intervient également dans d'autres pays en Amérique latine, à Haïti par exemple également, souvent, puisque c'est un pays... Vous voyez que c'est surtout au Maghreb, évidemment, en particulier au Maroc, mais également en Tunisie, en Algérie. En Tunisie, nous allons mener une réforme curriculaire de l'enseignement secondaire tunisien. Nous avons accompagné la création d'une filière de formation au métier de l'aéronautique. Nous intervenons pour, je vous disais en particulier, la question centrale dans tous ces processus, c'est la formation des professeurs, la formation des formateurs, la formation des cadres éducatifs. Voilà. Et À côté de ça, il y a toute la dimension de l'amélioration de la qualité de l'enseignement du français. Évidemment, la langue en soi porte des enjeux considérables, hein, des enjeux culturels, des enjeux de communication, tout ce qui concerne ce qu'on appelle le soft power. Ça n'est pas seulement des enjeux en soi. La langue, c'est, et nous y sommes confrontés en particulier en Afrique, c'est un enjeu direct de réussite ou d'échec scolaire pour la grande masse des enfants, puisque la langue de scolarisation en Afrique est essentielle, en Afrique subsaharienne, Afrique francophone, c'est le français, dès le plus jeune âge. Et c'est souvent le français et la langue qui permet de fédérer, dans la mesure où chaque pays peut avoir plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de langues maternelles. Ça pose le problème que le français est une langue étrangère pour les enfants, pour la grande masse des enfants, et qu'ils sont amenés à constituer leurs prérequis cognitifs, leur approche, la première construction de connaissances et de compétences dans une langue qui est étrangère, qui leur est étrangère. C'est sans doute une des sources principales de l'échec scolaire en Afrique que cette transition entre les langues maternelles des enfants et la langue d'enseignement, la langue de scolarisation qu'est le français, n'est pas suffisamment prise en compte, et que la didactique du français enseignée comme une langue étrangère est peu maîtrisée par les enseignants de ces pays. Et donc il y a un travail considérable. Vous voyez, on intervient évidemment dans... Le français est donc une langue pour enseigner toutes sortes de disciplines. On intervient beaucoup pour créer des sections bilingues, pour accompagner les démarches d'enseignement de disciplines non linguistiques. Toutes ces occasions sont évidemment... les questions de l'éducation au développement durable passent par... par les nouveaux programmes qui sont mis en chantier, par les nouveaux dispositifs. Nous essayons de construire également ce que nous appelons, nous, des produits d'expertise, c'est-à-dire des outils méthodologiques qui permettent, à partir d'une contextualisation dans les pays, d'accompagner l'évolution des systèmes éducatifs de ces pays. Alors, le CIEP a une expertise interne pour mener ses projets en termes d'ingénierie de projet, mais il est surtout un relais auprès de l'ensemble de l'expertise disponible dans l'éducation nationale, dans les universités, dans les établissements, qu'ils doivent fédérer pour apporter cette expertise au niveau international. Alors je vois que j'ai largement... consommer mon temps. Donc, je voudrais simplement peut-être insister sur deux aspects du point de vue de l'impact et de l'amélioration de l'impact. Le premier, c'est que nous devons construire un conventionnement entre les différents acteurs, les différentes institutions, pour être plus efficaces, pour identifier, cartographier l'expertise française et être capable de la mobiliser rapidement et efficacement, parce que sur ces marchés, il faut être rapide et efficace dans ce domaine. La deuxième, c'est qu'il y a une règle que nous appliquons systématiquement dans ces démarches, c'est la règle de la co-construction, c'est-à-dire que nous ne venons pas dans ces pays avec des solutions toutes faites. Nous y venons avec des experts qui ont des connaissances, une expérience, des choses à apporter, mais qui co-construisent les solutions avec les experts et les institutions de ces pays. C'est une dimension extrêmement importante pour progresser. Je pense qu'on pourra revenir sur d'autres aspects. Il y a un troisième aspect, peut-être, je conclue là-dessus, excusez-moi, c'est que il faut que les institutions... comprennent que la mobilisation de l'expertise et la projection d'expertise française à l'international doit devenir un objectif en soi. Ça ne doit pas être un aspect marginal, occasionnel, conjoncturel de l'activité. Il faut avoir des experts qui peuvent être mobilisables sur des périodes longues, donc qu'on peut extraire de leurs tâches quotidiennes pour réaliser ces projets. c'est la condition de remporter des appels d'offres et d'être efficace sur ce terrain-là.
Je voudrais, si vous le permettez, faire une petite question tout de suite, et puis ensuite faire un commentaire. Vous avez beaucoup parlé de la langue française, hein, et vous avez cité les pays dans lesquels le CIEP intervient, l'Afrique francophone, l'Afrique subsaharienne. Vous avez cité aussi les pays d'Amérique latine, Haïti. Est-ce que vos ressources pédagogiques et votre effort se fait vers les pays francophones, ou cela inclut également, je pense à l'Amérique latine, des pays non francophones ?
Il y a beaucoup de pays qui ne sont non francophones, mais qui ont un intérêt très fort vers la culture française et le savoir-faire technologique, scientifique, éducatif français. Je pense par exemple au Mexique, qui aime bien avoir un contrepoids à l'influence américaine et qui se tourne vers la France très, très, très couramment.